écoutez un podcast Agora Côte d'Azur.
Agora Côte d'Azur.
Oui, bien sûr. Aujourd'hui, eh bien, nous allons parler de pirates, non pas pirates des Caraïbes, mais de pirates aux Caraïbes.
Agora Côte d'Azur présente
Science et conscience.
François Conneau.
C'est un sujet évidemment très couru, surtout dans cette ère du numérique où pirater devient presque insensible, indolore, etc. Tout le monde semble pouvoir pirater à peu près ce qu'il veut. Et en même temps, effectivement, on a beaucoup de gens qui évidemment déplorent cet état d'esprit puisque le piratage semble se banaliser comme mode de, comme un mode de vie. En fait, la question aujourd'hui, c'est qu'on va essayer de voir dans l'histoire des sciences ou des arts aussi, eh bien, s'il en a toujours été ainsi, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, pirater un disque, pirater un morceau de musique ou pirater un film, ou voire même pirater un brevet, comme cela se fait malheureusement souvent, eh bien, cela reste encore un délit aux yeux de la loi. Donc, ce sont des choses qui sont répréhensibles et passibles de poursuites devant les tribunaux. La question est de savoir jusqu'où ça remonte, cette histoire-là. Alors, en fait, on peut remonter à peu près aussi loin qu'on veut dans l'histoire de l'humanité. Un exemple très connu, eh bien, c'était le cas du ver à soie, le ver qui permettait de produire la soie dans l'Empire chinois. Eh bien, on sait que les frontières de l'Empire de Chine jusqu'au Moyen Âge, eh bien, étaient jalousement gardées par des douaniers féroces, des douaniers chinois, réputés pour leur férocité, simplement parce qu'ils avaient pour consigne de l'empereur, eh bien, de fouiller toutes les caravanes, de fouiller tous les voyageurs pour les empêcher de sortir de l'Empire de Chine avec des fers à soie. Et on sait que ce sont justement des contrebandiers, des gens qui ont piraté des fers à soie en Chine, qui les ont amenés progressivement vers la France, et en particulier à Lyon. Eh bien, c'est comme ça qu'a commencé l'industrie de la soie en France. Donc, on est bien sur un exemple historique, je dirais. Alors maintenant, on va prendre des exemples un petit peu plus récents, parce que bon, c'est facile de parler de manière anonyme, mais est-ce qu'on peut citer des noms? Des noms, nous voulons des noms. Alors justement, je vais prendre deux exemples aujourd'hui. L'un d'abord dans l'histoire de l'art. Alors, si vous le voulez bien, on va remonter au Vatican. Voilà, on va remonter au Vatican, au XVIIe siècle. Nous sommes sous le règne, je sais pas si on dit le règne pour un pape, du pape Urbain VIII. Et celui-ci, eh bien, s'inquiète au lendemain des grandes guerres de religion et des guerres en même temps contre l'Empire ottoman. Eh bien, il s'inquiète de la capacité toujours de l'Église chrétienne, eh bien, à faire du prosélytisme, c'est-à-dire à convaincre les mécréants de la grâce et de la sainteté de l'Empire chrétien. Et pour cela, eh bien, le pape Urbain VIII imagine une arme absolue qui va être le plus beau morceau de musique que l'on puisse imaginer. Alors pour cela, il va mandater un auteur qui s'appelle Allegri. Ce compositeur italien, Allegri, va en 1638 composer une polyphonie pour la chapelle Sixtine. Donc il choisit le psaume 50, ça s'appelle un incipit, voilà, et il va construire une polyphonie de type Renaissance, voilà, mais d'une beauté absolument subjugante, d'une beauté absolument parfaite. Et une légende s'installe, en tout cas une pratique s'installe autour de ce morceau, c'est que afin de ménager l'effet de surprise envers ses invités, eh bien le pape va imposer que ce morceau reste secret au Vatican, c'est-à-dire que seuls les gens qui viennent à la chapelle Sixtine, sur invitation du pape, puissent l'écouter. Il compte en fait sur cet effet de surprise, eh bien, pour surprendre des adversaires de la chrétienté en les invitant chez lui et en les convaincant de la grâce et de la beauté de l'art chrétien grâce à ce morceau de musique. Donc vous retenez bien le Miserere d'Allegri, vous pouvez le chercher après partout sur les chaînes, sur YouTube par exemple, vous pourrez l'entendre. Voilà. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe par rapport à ce morceau? Mais effectivement, l'interdiction, alors il faut dire que les personnes qui l'écouteraient de manière illégale sont menacées d'excommunication. Et les personnes qui copieraient la partition, eh bien, sont menacées de mort carrément au Vatican. Et en fait, la légende prétend que l'interdiction aurait duré pratiquement 140 ans, jusqu'à ce qu'un jeune musicien qui fait son tour d'Europe, donc 140 ans plus tard, eh bien, vienne visiter le Vatican. Donc nous sommes cette fois-ci en 1771. Le jeune Wolfgang Amadeus Mozart a 14 ans, c'est un enfant prodige. Il est capable déjà de composer ses premières symphonies, elles sont déjà loin derrière lui. Et son père, Léopold Mozart, lui fait faire le tour de l'Europe. pour convaincre du génie et du talent de son fils. Et ce jeune Mozart, eh bien, reçu au Vatican, va avoir la grâce et l'honneur d'entendre le Miserere d'Allegri, morceau dont le Vatican garde jalousement secrète la partition. Et là, évidemment, que va-t-il se passer? Eh bien, en toute innocence, le jeune enfant prodige va retenir par cœur, en fait, la partition. Et puis, il ne va rien faire d'autre quand il va rentrer chez lui à Salzbourg. Eh bien, il va retranscrire la partition et la transcription va ensuite être éditée par, évidemment, des éditeurs allemands ou autrichiens peu scrupuleux. Et le Vatican va découvrir que le morceau est éventé. Et c'est ainsi que l'un des plus beaux morceaux de la musique baroque, enfin de la Renaissance, va être ainsi transcrit et piraté. Parce que finalement, voilà, Mozart est un jeune pirate, mais un pirate. Voilà, il a recopié contre le droit une partition. Alors, on peut multiplier les exemples à la même époque. Par exemple, on peut prendre... Alors, vous prenez Monsieur de Jussieu. Joseph de Jussieu fait partie d'une fratrie de trois grands botanistes. Et ce botaniste, donc le roi Louis XV, eh bien, va lui demander, donc en 1735, de faire partie d'une expédition de géographie qui part en Amérique du Sud. Donc, il va accompagner une expédition de géographie de manière à aider cette expédition. En fait, officiellement, il est médecin de cette expédition, mais de sa profession, il est botaniste. Et on va lui demander d'aller en Amérique du Sud pour, eh bien, aider en tant que médecin une expédition qui doit mesurer la fameuse circonférence terrestre, hein, parce que c'est l'époque à laquelle on établit la géographie globale, hein, de la Terre avec précision. Ça s'appelle l'expédition de la Condamine. Voilà, et durant cette expédition, en fait, eh bien, il se trouve que Monsieur Jussieu va se voir affublé une fois arrivé en territoire espagnol, parce que le Pérou est alors territoire espagnol, ça fait partie de l'Empire, eh bien, il va se voir affublé de deux officiers espagnols qui arrivent tout de suite aux Caraïbes, l'interceptent, en fait, et ensuite ne vont pas le lâcher. L'expédition va durer 8 ans, et pendant 8 ans, Monsieur de Jussieu va rester affublé de deux officiers espagnols qui ne vont pas le lâcher d'une semelle. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que l'Empire d'Espagne le soupçonne d'avoir été mandaté par l'Académie des sciences et le roi de France, eh bien, pour voler des essences végétales dont l'Empire veut garder l'exclusivité. Dont l'Empire espagnol veut garder l'exclusivité. Je veux parler de la quinquina, qui permet de guérir le palud à l'époque, de guérir les fièvres. Je veux parler du caoutchouc, dont on commence à comprendre les vertus. Et encore d'autres plantes médicinales, comme la coca aussi, qui est un médicament à l'époque. Et bien, Monsieur de Jussieu va être d'ailleurs réquisitionné régulièrement par les gouverneurs locaux pour soigner les populations, mais il va mettre à profit justement son travail de médecin, et bien, pour finalement contacter des contrebandiers. Et au prétexte de parfois aller chercher des médicaments dans les ports de Lima ou en Colombie, eh bien, il va en profiter pour exporter, faire passer dans le plus grand secret vers le royaume de France, eh bien, des graines de quinquina, de coca et d'EVA, permettant ainsi au royaume de France de commencer à se pourvoir, je dirais, en plantes rares dont l'Empire espagnol veut garder l'exclusivité. Donc on est encore dans un cas de piratage, et ce qui est exceptionnel dans ce cas, c'est que Jussieu était officiellement mandaté par l'Académie royale des sciences pour pirater ces plantes dans l'Empire espagnol. Voilà, donc j'en ai fini avec cette émission d'aujourd'hui. Nous étions donc chez les pirates aux Caraïbes. Et donc, je vous remercie de votre attention. C'était Science et Conscience, et à bientôt.